On passe à la deuxième partie, The Culture. The Culture. Pendant qu'on va réinstaller petit à petit la scène, on peut annoncer les quatre invités qu'on a pour la deuxième partie. Donc on reçoit Yoni, qui est fondateur de Wakongo, média sur la culture africaine et afro-descendante, et chroniqueur sur IRM Radio. Ah, il arrive, il prend sa place sur la scène. DJ MK Nil, qui est donc DJ et producteur. Pareil aussi, il prend sa place scène, sur la scène de La Place. Donc on rappelle, on est centre culturel du hip-hop, La Place, passage de la Canopée dans Paris, Paris Centre, pour cette émission exceptionnelle de 5 heures, la et Summer oui. Edition de Beat the Culture. Randy Chick aussi, qui est beatmaker, DJ, et qui accessoirement prépare une thèse sur l'économie du développement en Afrique.
Yes, mais je ne crois pas qu'il soit déjà arrivé.
Ah, il va nous rejoindre au cours de l'émission.
Exactement.
Et la dernière, Noura On The Track, qui est artiste, beatmaker, et qui va bientôt sortir son projet solo, qui sera aussi, aussi notre artiste pour la pour le prochain showcase.
Pour le deuxième showcase, exactement, c'est ça. Exactement. Et on a nos invités, mais qui vont au fur et à mesure. En attendant, on peut déjà mieux vous présenter les deux premiers invités qui sont présents. Je vous invite à prendre les micros qui sont devant vous.
Et ça tombe bien, il y en a deux.
Bah, bonsoir à vous, hein, bonsoir. Hop, les allumer, voilà, celui-ci. Yes.
Bonsoir.
On te laisse te présenter.
Du coup, je m'appelle MK Nil, je suis DJ parisien, producteur.
D'accord. Et,
voilà, je suis d'origine guadeloupéen sénégalais.
Ok.
Riche.
Alors, encore une fois, bonsoir à tous. Je présente Yoni, créateur de la page Wakongo, qui fait la promotion de la culture africaine afro-descendante. Et comme le nom l'indique de mon média, je suis d'origine congolaise.
Lequel, lequel?
Oh là là, mais pourquoi chercher la division?
Okay. Ah là, c'est important, c'est important.
On commence.
Le Congo-Braza, mais
okay,
on se sent toujours africain quand même.
Ça marche.
Ça, c'est ce que disent les Brazzavillois, voilà.
Oh là là, un petit clash.
Je ne répondrai pas.
C'est bon,
ce non.
Nous, on fait pas ça, les Sénégalais.
Ah.
C'est vrai, je confirme.
Voilà.
Bon, en tout cas, merci à vous d'être venus et d'être là. Je pense que si vous êtes venus aussi, c'est que le sujet, quelque part, il vous a interpellé, il vous a au moins inspiré. Particulièrement, DJ MK Nil, toi, déjà, t'es artiste, donc directement.
Je suis concerné directement.
Directement, t'es concerné déjà. Est-ce que tu sens, toi, une espèce de responsabilité ou, je sais pas, de poids ou simplement naturellement de représenter la culture afro-descendante toi,
parce qu'on rappelle
que...
juste rapidement le thème là, de cette deuxième partie, c'est est-ce qu'un ou une artiste afro-descendante doit forcément représenter la culture afro?
Yes.
Moi, je pense que pour répondre à la question, je dirais ça dépend qui demande. Parce qu'en soi, pour moi, pour ma part, en étant noir, on représente déjà la culture. Maintenant, l'histoire nous a montré que de par la musique, il y a beaucoup de styles musicaux, on va dire, qui ont été créés par les noirs. Les gens ne le savent pas, comme la house, la funk, et j'en passe.
Donc, et maintenant, les gens le savent.
Exactement. Et il y a même aujourd'hui des artistes qui ont réussi à mélanger plusieurs styles musicaux pour en créer de nouveaux. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne représentent pas la culture afro? Je ne sais pas.
Et toi, alors, ton avis, Yoni?
Alors, est-ce qu'en tant qu'afro-descendant, on est obligé de représenter notre culture? Après, je pense que cette question elle est intéressante puisque je pense que de base, on porte la culture qu'on a en nous. Même sans vouloir la représenter forcément.
De base,
en fait, quand on va créer un art, ça va aussi de ce qui nous a constitué. Qu'est-ce qui nous constitue? C'est notre culture, notre histoire, notre vécu. Donc, même si on ne va pas revendiquer forcément, oui, par exemple, je suis d'origine congolaise, je suis d'origine sénégalaise, je suis d'origine capverdienne, je vais représenter ma culture, mais le fait de créer un art qui va puiser dans mon être lui-même, Donc je vais puiser dans mon être, donc je vais forcément chercher des choses qui m'ont constitué, donc la culture. Et comme l'a dit le frère, c'est que aussi il y a beaucoup d'arts musicaux qui sont tirés de la culture noire. Par exemple, tout le monde a encensé Elvis Presley, le plus grand rocker de tous les temps. Mais tout le monde oublie qu'Elvis Presley est parti dans les quartiers noirs pour prendre cette musique-là. Même récemment, on voit Beyoncé, les gens l'ont beaucoup critiqué parce qu'elle a fait la musique country, mais on oublie que les vrais cow-boys étaient afro-américains. Et que aussi cette musique-là venait aussi de la culture noire. Et que justement, sans même vouloir dire forcément je veux revendiquer mon héritage afro-descendant, comme je vais, l'art en général vient de nous-mêmes. Ça va aussi rappeler le débat qu'on a eu avant avec l'IA, etc. Pourquoi parfois c'est bien aussi qu'il y ait l'humain derrière la création de l'art. C'est que l'art vient aussi des personnes qui le créent. Donc aussi, on va aussi ressortir notre culture. Donc on n'est pas obligé, mais je pense que intrinsèquement, on ressort notre culture dans notre art.
Donc pour toi, c'est plus une représentation qui en fait est naturelle plus qu'une représentation qui est intentionnelle, quoi.
Il y en a qui vont avoir cette intentionnalité. Dire par exemple, on va prendre les griots. Les griots, les ancêtres des rappeurs. Donc les griots, quand quelqu'un va dire je vais mettre dans la musique griot, c'est vraiment un acte culturel. Par exemple, si je descends de famille de griots, je vais faire ça parce que je veux conserver et promouvoir mon héritage culturel. Mais par exemple, je suis pas sûr que tous les rappeurs qui sont aujourd'hui se sont dit je vais promouvoir ma culture, mais par exemple on voit beaucoup maintenant dans la pop urbaine, comme ouais. J'aime bien dire ici, des sonorités africaines. Mais parce que aussi les personnes qui font de la pop urbaine avec des sonorités africaines ont aussi grandi avec des Koffi Olomidé, des Youssou N'Dour, donc tu ressors aussi en fait les sonorités qui t'ont fait vibrer quand t'étais plus jeune, donc tu vas les utiliser aussi après, quoi. Ouais.
Et donc finalement, ouais, c'est ça, la représentation, elle est naturelle chez tous les afro-descendants, en fait, au final. Et est-ce qu'il y a quand même... est-ce qu'il doit y avoir quand même genre un besoin de représenter? Est-ce qu'on peut reprocher à un artiste, par exemple, de dire « Moi, j'ai pas envie d'être défini par mon afro-descendance. Moi, je suis moi. » Un peu comme faisait, je crois, Tyler The Creator, qui disait « J'aime pas être dans une case. Je suis un artiste. Je suis pas un artiste noir ou un artiste urbain, quoi. »
Personnellement, je pense que le fait d'être artiste, c'est d'avoir vécu une pluralité d'expériences qui font aujourd'hui notre...
Un mélange culturel.
C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que Beyoncé représente moins l'afro que Rema ou Burna Boy? Je ne suis pas sûr, parce qu'elle le fait à sa manière. Et si elle, dans son existence et dans son enfance et dans son éducation, elle a vécu des expériences, elle a écouté de la musique qui n'était pas forcément dans ce style-là, ça ne veut pas forcément dire qu'elle représente moins un artiste afro. Par exemple, je suis antillais. Quand j'étais petit, ma mère, elle écoutait du zouk, du compas, du dancehall, du rap, du R&B. Et aujourd'hui, ça fait que je suis DJ. Et par exemple, j'ai fait le choix de me spécialiser dans le hip-hop, même si en soi, je sais tout faire. Mais c'est aussi ma manière de représenter la culture.
Mais pour toi, est-ce que tu la représentes à travers ce que tu as... entendu, ce que tu as appris et ce que tu as voulu reproduire, ou est-ce que tu repars de zéro, tu dis ok, j'ai tout ce bagage là, voilà qui je suis, oubliez mon afro-descendance et en fait prenez-moi comme ça?
Je pense que c'est impossible, parce qu'on ne peut pas créer quelque chose sans avoir d'inspiration. Pour moi, la créativité, c'est avoir plusieurs idées et les regarder sous un autre point de vue et les assembler ensemble selon sa propre perception des choses. Du coup, dire que oui, c'est moi qui ai fait ou c'est moi qui ai inventé, je pense qu'il faut avoir un très gros ego et ne pas se rendre compte de la réalité des choses, parce que forcément, on a entendu quelque chose qu'on n'aime pas, quelque part une inspiration, un son, même un bébé qui pleure, un bruit de musique, une tantine parler, quelque chose. Et au final, c'est quand on arrive devant son ordinateur, on se dit, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que pour moi, c'est ça.
En fait, on a Noura aussi qui vient nous rejoindre sur le plateau, donc bienvenue à Noura.
Noura,
merci.
On the track.
Noura, on the track. Yes. Noura, toi, est-ce que du coup, comment est-ce que ta culture afro, elle t'influence dans ta musique en tant qu'artiste? Est-ce qu'elle est présente intentionnellement, ou est-ce qu'elle est présente juste naturellement parce qu'elle découle de toi, en gros?
Je pense que c'est naturellement. Moi, j'ai toujours commencé par faire des prods afro au début. Et après, bon, moi, j'ai la double culture, comme ma mère, elle est algérienne. Mon père, il est tchadien. Bon, ça reste quand même de l'Afrique. Mais on n'écoute pas la même chose en Algérie. Moi, j'ai beaucoup écouté des musiques arabes quand j'étais petite, vu que ma mère, elle en écoutait beaucoup. Et les musiques tchadiennes aussi, ça ressemble aussi à des sonorités aussi arabes. Mais dans les... je pense que comme il a dit, en fait, l'afro c'est partout. Et c'est inspiré beaucoup de styles de musique. Et je pense que même si on dit qu'on n'est pas inspiré par la culture afro, on est inspiré dans tous les cas, vu que c'est présent dans beaucoup de styles en fait aujourd'hui.
Surtout que l'afro c'est large en fait. Aujourd'hui on utilise le gros, particulièrement en France, on utilise le gros parapluie afro ou même le parapluie afro-descendant, mais il y a des cultures afro-descendantes. Et moi par exemple, étant d'origine congolaise, je connais absolument rien de la culture tchadienne, tu vois. Donc je serais incapable aujourd'hui de parler même des sonorités de musique tchadienne. Et pourtant on se retrouve dans des musiques qui sont fondamentalement africaines au final. Donc je me dis, est-ce que même si toi en tant qu'artiste au final t'es influencé par la musique afro, est-ce que c'est afro telle qu'elle existe aujourd'hui, ou est-ce que c'est afro telle qu'elle existe pour toi en tant que du coup algérienne, tchadienne?
Je pense que afro tout court, hein. Je pense afro tout court.
Parce que même au Maghreb, ouais, pour toi, ce qui est au Maghreb, ça fait partie de l'Afrique, même si des fois, souvent, on le distingue un peu les deux. Je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il y a des fois, on ne fait pas des différences entre la musique qu'il y a aux Antilles avec ce qu'on peut retrouver en Afrique noire, Afrique de l'Ouest, même Afrique de l'Est? C'est quand même des inspirations différentes.
Déjà, en fonction des différents pays d'Afrique, ils ont tous un rythme, on va dire, de percussion et tout ça, je pense, propre à eux. Je pense que ce qui se fait, par exemple, au Congo, c'est pas le même rythme que ce qui se fait en Afrique du Sud. Donc, comme elle a dit, en fait, l'afro, c'est large, mais il y a plusieurs styles de musique afro dedans. Et je pense que la musique arabe, elle est différente de la musique afro, mais je pense qu'il y a des similarités dans tout ce qui est éléments percussifs. Ouais. Pas forcément en termes de rythme, mais je pense qu'en termes de sonorité, tout ce qui est percussif, je pense qu'on retrouve ça dans d'autres pays d'Afrique. Donc voilà, après, c'est pas la même, c'est sûr que c'est pas le même style de musique, quoi.
On a aussi Randy Chic qui vient nous rejoindre sur le plateau. Donc bienvenue à
Bonsoir.
Randy Chic.
Bienvenue sur le plateau.
Bienvenue sur le plateau. Bah, écoute, je vais te poser la même première question en fait que j'ai posée à chaque personne qui est arrivée. La question de base, est-ce que toi aussi tu es un artiste, toi aussi tu es afro-descendant, à quel point est-ce que ton afro-descendance elle influence ta musique?
Alors, à quel point donc, ça veut dire que tu présupposes que ça influence ma musique?
C'est ça, est-ce que ça influence naturellement ou est-ce que ça influence intentionnellement, ou alors est-ce que c'est, comme tu dis, pas le cas?
Alors je t'embête, mais oui, bien sûr que ça influence ma musique. Ça peut être en termes de sonorité comme de rythme. Alors moi je suis spécialisé en hip-hop, donc je fais beaucoup de prod pour le milieu de la danse, pour des championnats en tout genre, pour des événements, pour des marques, etc. Et ma spécialité, donc comme je l'ai dit, c'est le hip-hop et les sons hip-hop battle en particulier. Et je m'inspire pas mal de sons de d'autres styles pour créer mon style, on va dire, dans le hip-hop, même en termes de groove, de bounce, etc. Donc je m'inspire évidemment de ce qui a déjà été fait dans le hip-hop, j'invente rien. On va dire que je réactualise les choses, mais je ne vais pas hésiter, par exemple, à aller chercher dans des... Donc ce qu'on appelle des sample packs, donc c'est des fichiers avec différents samples, pour nous les beatmakers, avec différents éléments. Donc souvent c'est fait par d'autres beatmakers, des ingé-sons, etc. Et dedans il y a toutes sortes de sonorités. Donc j'hésite pas pour une prod hip-hop par exemple à aller chercher des samples, de sample pack à ma piano, afro, etc. Donc ce qui me permet d'avoir tout un tas de percussions, des bongos, des petits tambourins, etc. Et je les mets dans des prods hip-hop. Et c'est des choses qui se font, qui se faisaient et ça se fera certainement plus tard. Vous prenez un artiste comme Timbaland, vous écoutez certaines prods qu'il a pu faire pour des Missy Elliott ou d'autres. Si vous écoutez bien, sans difficulté, vous allez vous rendre compte qu'il y a un rythme hyper africain, il y a plein de petits tambourins, des choses, même des bruits d'éléphants, pour vous dire. Donc voilà. Oui, je m'inspire et je me nourris évidemment de la culture et je la traduis et je m'exprime à travers la musique. Donc oui.
Oui, mais finalement, effectivement, tu parlais de Timbaland qui va utiliser des sonorités africaines ou des sample pads d'Afrique. Ouais. Je me demande si la démarche de Timbaland et aussi par exemple vous, votre démarche en tant qu'afro-descendant, est-ce que c'est en mode ah ça sonne bien, c'est un bon outil, vas-y je vais le mettre dans ma prod, ça passe, ou est-ce qu'il y a un côté ça fait partie de moi, je veux le représenter, quelque chose de vraiment on va dire volontaire, presque militant quoi, dans, dans la démarche. Est-ce que c'est un truc qui est important aujourd'hui ou pas? Moi je sais que j'ai mon avis dessus.
Alors je vais pas parler, je vais pas me permettre de parler au nom de Timbaland, avec tout le respect que j'ai pour lui. Je pense qu'il serait à même, si un jour tu l'invites ici, de répondre à ça.
On espère qu'un jour il répondra
mais
à notre
invitation. Il viendra, hein, je pense, tu lui envoies un message, il répond vite.
DM, bien sûr.
Mais pour ma part, la culture africaine, puisque je suis afro-descendant, et c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose d'inné, c'est en moi. Donc non, je le fais pas en me disant ça sonne bien, bien que ça sonne bien.
Voilà. Ça verre. Voilà. Yes. À gros avantage.
Désolé les autres, hein, mais mais voilà, c'est non seulement ça sonne bien et en plus ouais, clairement j'ai baigné là-dedans pendant des années. Même si j'ai pas vécu longtemps en Afrique, c'est ma culture et je l'aime.
Mm-hmm. Vous avez d'autres interventions du coup sur ce point-là en question?
Ben, après, pour ajouter, c'est que même on n'a pas les Timbaland, mais on a tous l'exemple, par exemple, de Michael Jackson qui s'est inspiré aussi de Mama Kosa, par exemple. Donc, il y a l'Afrique, comme l'a dit le frère, les afro-descendants ont inspiré beaucoup de musique. Le rock, la house, même le jazz, même on parle par exemple de la Colombie. On ne connaît pas cette danse, mais la cumbia, qui vient de la même racine que la rumba. Je te regarde en disant ça parce que tu es congolaise. Et que, par exemple, comme quoi la culture est importante. Si on parle de l'histoire de la rumba, c'est une histoire parfaitement du parcours africain, que ce soit une danse qui soit partie d'Afrique, qui s'appelle la cumba, qui va à Cuba. Donc il y a d'autres Africains qui s'ajoutent avec leur sonorité, les sons hispaniques. Ça fait maqué, j'aime bien. Donc on va créer la rumba. Et la rumba, après les Cubains sont partis, sont revenus dans la terre mère. Ça crée la rumba congolaise, qui est maintenant la meilleure musique de tous les temps. Pardon. Mais
non, c'est faux. C'est complètement faux.
Monsieur, il n'y a pas un débat. C'est retenu par le patrimoine mondial de l'UNESCO.
Non, je ne suis pas d'accord.
On n'est pas d'accord, ouais.
Non, mais ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir tort. C'est pas grave.
Bon, on va revenir au sujet.
Non, mais je rigole.
Ils ont le droit d'avoir tort.
C'est ça.
Non, mais au-delà de ça, je rigole aussi pour te répondre aussi sur les liens entre les musiques, on va dire, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Mmh. Et aussi, il y a des ponts qui existent. Par exemple, si on va au Maroc avec la culture, les Gnaoui.
Les Gnaoui,
pour ceux qui ne le savent pas, c'est une culture qui fait un peu le pont entre la culture arabe, en tout cas. D'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Il y a un festival de musique à Essaouira. Mm-hmm. Donc quand on voit la culture gnaoui, on fait « Ah ouais, ok !» Donc il y a aussi des liens entre les sonorités subsahariennes et nord-africaines, sachant que dans tous les cas, que ce soit au nord ou au sud, on reste sur la culture africaine finalement.
Oui. Et tu citais tout à l'heure, tu as parlé de Michael Jackson, mais ça m'a fait penser aussi à un autre exemple, entre guillemets, contre-exemple. De par exemple une Shakira qui va venir nous dire que Waka Waka ça lui est venu en songe, qu'elle s'est sentie inspirée, etc.
Oula.
Est-ce que là on peut parler de... En fait c'est ça le problème, d'inspiration et de représentation, ou est-ce que c'est pas finalement une forme... Enfin, en fait je savais pas comment... Est-ce que c'est bien que la musique et la culture africaine soient représentées même pour une artiste qui est colombienne, ou est-ce que là on est dans une situation qui va être différente?
Je vais même aller plus loin, hein. C'est inévitable. Mmh. Est-ce que tu es obligé de passer par une forme de représentant, de représentation en fait de la musique africaine quand tu fais de la musique?
Selon moi, là, on serait plus dans de l'appropriation culturelle de par ses mots à elle-même, en disant j'ai fait un rêve, il y a une idée qui m'est venue et j'ai fait ci, ça, ça. Alors qu'en fait, elle a complètement repris, pour ne pas dire plagié, quelque chose qui existe depuis, je crois, les années 80 ou quoi. C'est très ancien. Et le fait de ne pas reconnaître et de ne pas être honnête dans la démarche en disant, voilà, je me suis inspiré de ça, de citer la source, l'artiste, etc. Et je crois même qu'elle a été poursuivie par l'artiste, si je ne me trompe pas, ou par la famille de l'artiste, pour ces faits. Ça, pour moi, on parle, là, on n'est plus dans de l'inspiration, on est dans de l'appropriation. Le simple fait qu'elle ne reconnaisse pas et qu'elle ne cite pas la source, pour moi, c'est de l'appropriation. Voilà.
Et c'est là que je me demande, est-ce qu'à chaque fois, il y a cette nécessité de citer la source, connaître l'histoire, savoir remonter aux sources, etc. Parce que pour... je trouve que nous, en tant qu'afro-descendants en France et en Europe, on a le privilège de connaître nos racines, on a le privilège du fait que nos racines, elles ne sont pas si loin, on a juste à regarder nos parents et nos grands-parents. Mais je sais qu'il y a eu pas mal de débats autour d'artistes afro-américains qui, on a cité Beyoncé tout à l'heure, mais je pense aussi à Chris Brown ou à Usher, qui allaient chercher des sonorités africaines ou qui allaient chercher des artistes africains. Ça leur a été reproché de la part d'Africains et de la part d'Afro-descendants qui ne se trouvent pas en Afrique. Et je me demande si on est là, dans la même situation finalement que Shakira, ou est-ce qu'on est dans une situation qui est plus proche que vous ici, artistes en France, qui utilisez les codes culturels que vous connaissez.
Qu'est-ce qu'on a comme liberté, en fait ? Quel est le degré de liberté quand on est afro-descendant ? Peut-être pas quand on est afro-descendant d'Afrique, par exemple, mais si on est américain, qu'on est noir américain, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, je dirais, quelle est la liberté ? Enfin, quelle est la différence ? Quelle est la limite entre liberté, respect et devoir ? Parce qu'en soi, on est obligé de rien. Mais si on veut continuer d'exister, je pense que c'est bien de le faire. Parce que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne savent pas, je pense, que la house est une musique noire ou d'autres.
Et si mais à nous, Chicago.
Exactement. Si nous, qui avons la culture, ne faisons pas ce devoir de transmission, bah, au bout d'un moment, ça finit par mourir, je pense. Et,
D'autres avis, d'autres idées ?
Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Tout à l'heure, moi, j'ai envie de revenir sur Timbaland, parce qu'on dit qu'il représente la musique afro, on va dire, parce qu'il a utilisé des sonorités africaines, mais il a aussi beaucoup volé, en fait. Donc, je trouve qu'il n'a pas...
Faut dire les vérités ici.
Non, mais, non, mais du coup, ben, s'il
Timbaland,
a...
Timbaland, il ne va plus venir à mon show, c'est bon.
Non, mais il faut qu'il rende la musique d'autrui.
Ouais, tu vois, mais j'ai envie de dire, est-ce que, pour toi, il n'a pas respecté la musique ? Pour toi, il n'a pas respecté l'histoire, il n'a pas respecté l'héritage.
Non, on ne peut pas respecter quelqu'un si on le vole. Parce que du coup, on ne le crédite pas. On ne dit pas que, d'accord, oui, j'ai pris ça, c'est volé. Quoi. Donc du coup, ça ne donne pas du crédit. Du coup, ça ne contribue pas du coup, à la culture afro. Au contraire, ça fait perdre de l'argent justement à des artistes qui sont censés être de là-bas. Et du coup, ça leur retire des droits et voilà quoi.
Après, pour te compléter déjà, quand, en parlant de Timbaland ou que Shakira a vu Mufasa dans son rêve et qu'elle lui a expliqué la musique, le problème c'est que si on sait pertinemment qu'ils ont, ils ont pioché dans des musiques existantes et qu'on le sait, et que un peu comme a fait Michael Jackson avec Manu Dibango, il ne dit pas j'ai écouté un Camerounais, j'ai repris son son, mais allez l'écouter, au moins on dit bon c'est faire, j'ai pris la musique, mais au moins je sais d'où ça vient. Au moins il n'y a pas de souci, parce que c'est un hommage que tu rends à quelqu'un. Mais si tu dis j'ai pris la musique, en fait c'est Mufasa qui est venu me voir dans un rêve ou le père de Black Panther, dis ok, mais là ça ne met pas en avant la culture africaine. Mais après il faut savoir aussi que les Afro-Américains ayant été déportés aux Amériques, ils ont aussi développé leur culture, leur sonorité qui sont tirées d'Afrique, mais sauf que transmission par transmission, génération par génération, ils ont peut-être perdu le fait en fait ça vient de notre village du Tchad, notre village Congo, notre village Yoruba.
Mais c'est complètement transformé en 300, 400, 500 ans, ça n'a rien à voir.
C'est vrai, mais derrière, c'est quand même partie de leur héritage. Oui. Par exemple, tu parles aux États-Unis de la communauté Gula. La communauté Gula, c'est une communauté afro-américaine qui a quand même gardé ses racines africaines. Mais après, ils vont pas te dire « Oui, mais en fait, je suis Congo de Bazagungu. » Ils vont dire « On ne sait plus ça. » Mais ils savent que ça vient d'Afrique, mais on ne sait plus d'où. Mais nous, c'est notre héritage. Et si ils viennent dire « Mais ça, c'est de ma culture afro-américaine, ok. » Mais si c'est dire « Comme Shakira... » Parce que même Shakira, quand parfois elle cite la cumbia, elle dit jamais que c'est la population afro-colombienne. Sachant qu'elle, elle n'est pas afro-colombienne, mais elle ne dit pas que ça vient de la culture afro-colombienne. Comme elle dit que Mufasa m'a parlé pour Waka Waka, le problème qu'on peut reprocher parfois aux Afro-Américains, c'est de se dire, vous savez pertinemment que vous prenez de la musique d'artistes africains, qu'on l'a reconnu, et que ce n'est pas des musiques que vous faites, ce n'est pas, par exemple, issu d'un dérivé de la culture afro-américaine, par exemple, quand Beyoncé a fait son Coachella, qu'elle a repris toute la direction artistique qui représente par exemple les HBCUs, les universités afro-américaines. Alors on dit ok, c'est la culture afro-américaine, c'est normal qu'elle utilise sans citer personne, parce que c'est la culture afro-américaine, afro. Mais quand tu dis par exemple si elle prend des sonorités vraiment issues d'Afrique, la moindre des choses, c'est au moins dire mais ça vient de tel artiste, tel peuple, comme ça permet aussi aux afro-américains de faire ce lien-là entre la diaspora et le continent.
Mais du coup, il y avait... Là, on parle aussi des artistes afro-américains, mais je sais qu'il y avait eu pas mal de discussions et un peu de disputes parfois sur le fait qu'un artiste comme Dadju, par exemple, ou Aya Nakamura, utilisait en tant qu'artiste du coup, d'origine afro-descendante, mais de pays d'Afrique, utilisait des sonorités ou faisait des sons carrément qui étaient voilà, zouk, compas, tout ça. Est-ce que... Là encore, je me demande où est la limite. Est-ce qu'il y a une limite en fait dans la créativité, dans l'utilisation de sonorités qui sont franchement populaires aujourd'hui en France, tout le monde
et afro-descendante.
Et afro-descendante en fait, également.
À partir
c'est
du
ça.
Moment ouais. où ok, tu croises des choses, mais si c'est ton héritage, que ça vienne entre guillemets de près ou entre guillemets de loin, pourquoi est-ce que tu peux pas l'utiliser en fait quand t'es afro-descendant?
Mais je comprends que ce soit aussi une discussion parce que est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la compas c'est l'héritage de Dadju? Enfin, c'est là où se pose la question quoi. Où est le curseur?
Ah non, on va pas dire ça.
C'est ça.
Non. C'est ça. On va les respecter quand même.
C'est
non,
ça.
On va pas dire ça. Mais je pense aussi que, par exemple, pour l'exemple de Aya qui fait du coup des sons zouk, chaloupé, chata et tout, je pense aussi que c'est parce que il y a la discrimination de la musique. Je pense aussi en France. Déjà, quand Aya, on la voit dans les catégories, il n'y a pas écrit Zouk Chata. Est-ce qu'il y a une catégorie même qui définit ce style de musique? Il n'y a pas, du coup.
Pop urbaine, c'est ce qu'on disait. Ouais, tout
à voilà, c'est ça, ils vont dire pop urbaine, pop française. Et du coup, elle se cale sur la... c'est comme la musique urbaine aux États-Unis, on met tout dedans.
Ouais.
On met tous les noirs. Allez, vous...
Claire.
Ouais, mettez-vous là.
Là, je pense qu'à un certain moment, il y a volonté de nuire, parce qu'on ne peut pas... On peut pas copier aussi fort et ne pas dire les choses. C'est clair. Il y a des sons, ils sont clairement zouk et compas, qu'on le veuille ou non. Et le problème, c'est pas de le faire. C'est d'aller,
c'est de faire le travail jusqu'au bout.
Complètement. Aller créditer les artistes. Et ça n'a jamais enlevé de la lumière à quelqu'un de dire, voilà, j'ai pris ça et je m'en suis inspiré. Regardez ma version. Et après, ça a même déjà mené à des feats ou à des reprises. Je peux prendre le contre-exemple de Burna Boy avec son titre, Last Last. Il disait que malgré que ça soit... qu'il ait samplé le son original, c'est le son qui lui rapporte le plus d'argent aujourd'hui. Donc au final, je pense que c'est plus un souci d'ego et de problèmes internes ou avec soi-même, ou le fait qu'on ait envie de se dire d'accord, j'ai tout inventé, c'est moi le roi. Et puis, mais en dehors de ça, j'arrive pas à voir le côté négatif de la chose d'aller créditer un artiste qui justement peut-être existe un peu moins aujourd'hui, parce que justement tu existes peut-être plus aujourd'hui et que tu n'ailles pas dire en public que, entre parenthèses, si aujourd'hui tu existes, c'est en partie grâce à ces inspirations-là, mais je trouve que c'est encore plus beau et ça peut mener à des belles choses.
Donc en gros, les artistes afro-descendants, quand ils samplent, quand ils reprennent, ils doivent aussi rendre hommage aux artistes qui sont passés là avant et qui leur ont permis de faire ce titre, cet album.
Qu'on doive, je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige jusqu'à aujourd'hui, alors que je pense que ça...
Ouais, mais sinon, en fait, tu te fais brûler sur la place publique.
Bah, c'est ça, mais je pense que ça permettrait de développer encore la musique encore plus rapidement, et en allant dans l'évolution, je pense que ça permettrait de se développer encore plus vite. Parce qu'il y a plein de jeunes qui, au niveau culturel, enfin musical... Leur seule référence, c'est la radio. Et ce qu'on leur dit sur TikTok. Forcément, s'il n'y a pas des gens qui ont la culture et qui viennent expliquer les choses et l'origine de
The culture.
The culture.
On n'en finit pas et on se retrouve avec des sons compliqués.
Mais après, tu peux. En fait, il faut pas qu'on se cantonne à se dire bon, ceux qui font de la musique zouk, il y a que les Antillais, c'est que la rumba, c'est que les Congolais. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais il faut arrêter de mentir. Écoutez-moi bien, l'afro-love n'existe pas. Ça n'existe pas. On répète tous, l'afro-love n'existe pas. C'est du zouk. Donc, personne ne peut empêcher, par exemple, un Congolais, quelqu'un d'origine congolaise, un d'origine guinéenne, un Camerounais de faire du zouk. mais qui disent que c'est du zouk. Ils disent pas que non, j'ai fait du Congo Love. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'existe pas. En fait, même sans dire que je crédite forcément celui qui m'a samplé, dit au moins que j'ai fait du son zouk. Comme ça, ça permet aussi de dire, ben, le son zouk, c'est quoi? Ça vient des Antilles, ça a telle histoire, il y a tel différents types de zouk, et ça permet de développer la musique. Le problème de se dire, ben, je fais du zouk sans le dire, et dire, mais en fait, c'est un style totalement différent, on met le zouk de côté, ce qui fait que le zouk ne va pas évoluer, puisqu'on va dire que le zouk, en fait, c'est seulement les sons de cassave, alors que le zouk évolue aussi, comme toutes les musiques. Et derrière, on s'approprie. Là, c'est de l'appropriation culturelle. Parce qu'on dit que j'ai pris un truc chez autrui, j'ai changé le nom, et j'ai dit, ben, c'est à moi. Parce que j'ai décidé que, comme tu as dit, je suis le roi, j'ai créé de la musique. Donc, crée rien, on transforme beaucoup de choses. Et du coup, moi, je ne peux pas imposer, par exemple, quelqu'un qui a pris un sample, parce que Johnny Hallyday, quand il faisait sa musique, il n'a rien inventé. Mais on, il n'a jamais dit que j'ai pris Fred Astaire ou pas. On ne lui demande pas. Mais au moins, on sait que sa musique, c'est du rock, on sait que sa musique, c'est ça. Il n'a pas dit que c'est du rock français. Il n'a pas dit que je fais du French rock ou de la French, je ne sais pas quoi. Il a dit que je fais du rock et j'ajoute mon input. C'est pareil, quand par exemple, moi, je ne vais pas empêcher Aya de faire du chata. C'est même très bien. C'est très bien. Parce que ça permet de le faire développer la musique, mais qu'elle ne dise pas qu'on fasse de l'afro-love derrière. Ce n'est pas vrai.
Je pense que la catégorie n'existe pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, si par exemple, Aya demain distribue sa musique sur son distributeur, il n'y a pas la catégorie zouk. Donc c'est-à-dire que même si en haut de ceux qui par exemple, qui font les playlists et tout ça, si... La catégorie n'est pas déjà.
Les labels de musique et puis voilà. les plateformes de streaming ou autre, l'industrie musicale en fait.
Voilà, je pense que c'est surtout pour ça, tu vois.
Après, mais au-delà de ça, c'est même entre nous, en tant qu'artiste, peut-être la catégorie n'existe pas. Bon, après, c'est vrai qu'il faut arrêter avec les termes pop urbaine ou afro. En gros, dites-nous musique de noir, comme ça. comme ça après. Voilà, dites-nous, en fait, c'est la musique de noir, et comme ça, on met tout dedans. Quand l'artiste, lui, il sait ce que le zouk existe, on sait que le chata existe, il dit, bon, ok, c'est pop urbaine parce que ça n'existe pas dans vos catégories, mais moi, je vais jamais dire c'est de l'afro love. Il dit, c'est du zouk, c'est pas du truc, c'est de la compa, c'est du chata, voilà. Mais au moins, si nous, en tant qu'artiste, enfin, je suis pas artiste, si vous, en tant qu'artiste, au moins, on met en avant les musiques qu'on veut mettre en avant, au reste, ça peut même... bouger chez les majors pour dire bon, ok, il faut qu'on mette des catégories parce que musique de noir, c'est pas suffisant en fait.
Le problème, c'est que comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de musiques qui existent aujourd'hui qui sont des musiques de noir en fait. En soi, on parlait du rock, on parlait de la country. Aujourd'hui, elles sont peut-être pas forcément perçues comme telles, quoique j'ai l'impression qu'il y a une réappropriation culturelle dans ce sens. Mais en soi, c'est assez difficile parce que. Je dis pas ça pour défendre le terme pop urbaine, mais ça m'énerve aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, l'afro s'est élargi. On a donné le grand parapluie afro, et donc l'afro est devenu pop. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que du coup, et comment est-ce que on va réellement faire la division quand on a des sons qui, comme la rumba, tu disais, est né de différentes influences afro et latino. L'afro love, par exemple, qui existe ou pas, et peut être perçu comme une fusion entre le zouk et d'autres musiques de différentes influences.
D'ailleurs, tu vois, par rapport à Jul, dans ses prods, il y a des inspirations afro dans les rythmes.
Ouais, c'est bon.
Mais c'est ça, il y a des. Enfin, je veux dire, il y a des artistes aussi au-delà du style. Oui, c'est afro. Oui, c'est hip-hop. Oui, c'est trap. Mais ils ont une identité où on se dit, bah, ça, c'est du Jul type beat, quoi. Mais lui, on peut aller lui dire, mais pourquoi est-ce que En fait, on peut attraper la veste de tout le monde, comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
Je vais là-bas, je dis, oui, mais toi, ta musique, il y a de l'afro dedans. Pourquoi tu dis pas que ça descend de ce pays, de nanani.
C'est ça. Est-ce que, finalement, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup dans des époques d'étiquettes. On veut un peu tout étiqueter, on veut que tout soit carré, que chacun rentre dans des cases. Est-ce que ça contrevient à la créativité peut-être de l'artiste? Est-ce que c'est pas finalement prise de tête de se dire, ah mince, je suis en train de créer, mais il faut que ça rentre dans telle case. Si je fais quelque chose avec des sonorités de zouk, il faut que je fasse attention. Est-ce que justement ça entrevient à la liberté ou pas?
Moi, pas du tout, parce que moi, quand je compose des prods, je me dis pas que je vais composer par exemple un style en particulier. Je choisis juste des éléments. Je me dis, bon, ça j'aime bien. Comme il a dit tout à l'heure, il commence à faire une prod par exemple trap. Il se dit, bon, je vais aller piocher dans un pack de samples afro. afro. Voilà, en fait, tant que ça sonne bien et que ça reste cool à l'oreille et que j'aime bien musicalement, ça me plaît, bah, je me dis ok. Je me dis pas, ah non, mais là j'ai fait une afro-drill à ma piano mélangée à Dieu. Je vais commencer à faire des calculs mathématiques pour définir le style de la musique.
Moi, si c'est pour répondre, excuse-moi, t'allais parler. En fait, si c'est pour répondre à ta question, je pense que ça vient de plus haut, ça vient des lobbies.
Ah.
Pour dire les choses, pour dire les termes. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font quand un beatmaker finit sa prod, peu importe dans la manière dont il s'est inspiré, où il a été chercher le son, que ça soit au Brésil, au Pérou, etc. En finalité, on peut différencier, on va dire, un certain type de prod par rapport à leur rythmique, souvent par rapport à la caisse claire, on va dire. Et à la fin, tu sais quel style c'est. Donc quand tu vas distribuer ta musique, sachant que c'est pas forcément eux qui le font, t'as pas forcément les catégories. Mais moi, je me pose la question au bout d'un moment, est-ce que c'est pas fait exprès ?
C'est-à-dire ?
Ben justement pour.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de supprimer, tu veux dire, les genres,
ça,
les
théories du complot ? Exactement.
Ou est-ce qu'ils connaissent juste pas ? Est-ce que il n'y a pas aussi un manque de personnes dans l'industrie musicale pour te dire ça c'est tel genre, ça c'est tel genre, ça c'est tel genre, et pas quelqu'un qui dit en vrai au fond on sait pas. Est-ce que les gens se posent la question? On sait pas. Vas-y, viens, on met tout ça en pop urban.
Bah franchement, dans les maisons de disques on peut trouver de tout et n'importe quoi. Des gens qui n'ont rien à faire de la musique, ils voient juste l'argent. Pour eux les artistes c'est des produits. Et t'as des gens aussi passionnés. T'en as pas beaucoup et c'est pas forcément les gens qui prennent les décisions, mais il y en a. Et je pense qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui peut dire hey, Mathéo, tes histoires là de pop urbaine, arrête, tu vois. Et je pense que il doit dire oui, il y a pas de souci. De toute façon, nous, dans notre catalogue, c'est pas comme ça qu'on le vend. Alors, ça sera pas comme ça. Je pense que il doit y avoir quelque chose comme ça.
J'ai l'impression, Randy, que tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure.
C'est marrant qu'on ait ce débat parce qu'il y a quoi, il y a un mois, j'ai annoncé sur Instagram que j'arrêtais de faire des prods battle et que j'allais faire de la musique. Point barre. Et bah, ça a fait un peu un choc auprès de plein de danseurs. Ils m'ont dit, comment ça t'arrêtes les prods? Non, mais comment ça on va danser sur... Je leur ai dit, bon, alors déjà, je suis pas le seul beatmaker qui fait les autres battles.
Claire, faut les challenges fort.
Mais en France, comme je suis assez productif, ils se sont dit, ah ouais, là, c'est chaud et tout. En plus, récemment, il y a un autre beatmaker qui a arrêté, Jude. Donc, ça fait un gros coup de qu'est-ce qui se passe? On n'aura plus de prod, on va danser sur du Mylène Farmer. J'ai dit, calmez-vous, les gars.
Quand
ça,
même.
Ça va bien se passer. J'ai dit, ça, on t'aime, Mylène. Non, ça va bien se passer. Mais je leur ai dit, en fait, j'arrête de faire des prod battle et je vais faire de la musique parce que j'ai plus envie de me brider. Mm. Ce qui se passait, c'est que quand je faisais une prod, donc ça partait d'un esprit, on va dire, créatif. Et à la fin, ça devenait un truc où je me disais, ah, mais attends, mais ça correspond pas au code des sons battle, le BPM, le machin. Et en fait, je modifiais la prod jusqu'à ce que ça rentre dans les codes des sons battle, relativement courts, 2-3 minutes, avec des gros 808, avec des ceci, des cela, des paroles un peu en accéléré, des acapella un peu connus, machin. Et je faisais ça pour plein de prods. Donc il y a des prods qui n'ont jamais vu le jour, qui sonnaient plus house ou ceci ou cela, ouais, et qui n'ont jamais vu le jour et qui sont sortis en tant que prod hip-hop battle. Donc ça, j'ai arrêté et je me suis dit, maintenant, je fais de la musique. Donc on a créé un groupe avec un beatmaker qui est américain, qui a un G-son qui s'appelle Rerzy. Et le truc, c'est que malgré ça, je sais que selon le BPM sur lequel je vais me placer, selon le choix de ma sound selection, le choix des claps, le choix des kicks, etc., ma musique, dans tous les cas, sera définie. Parce qu'on, comme tu l'as si bien dit, on est dans un système d'étiquetage. Mmh. Donc, si demain, j'utilise tel kick avec tel 808 et je me mets, on va dire, à 130, 140, hop, je vais sortir le... Ah ouais, tu fais de la trappe. Non, frérot, en fait, j'ai juste fait de la musique en... Non, mais c'est de la trappe. Mmh. Tu vas augmenter le BPM à, je sais pas, à 100, 150, 160. Ah, tu fais de la jersey. Ah ouais, ok, j'ai capté. Ah non. Et en fait, on est dans ce truc de... ok, je reconnais les codes, donc c'est ça. Et donc, c'est très difficile de se dire non, moi, je fais de la musique comme ça, je suis juste créatif et tout. Parce qu'on va toujours... on a ce besoin, je pense que c'est très humain, de nos sociétés modernes, du moins, je sais pas comment c'était avant, de vouloir mettre un nom sur chaque chose. Ah, ça, c'est ça. Ouais. On peut pas dire, ah, ça, c'est de la musique. On a besoin de dire, ok, mais c'est quoi? C'est de la trappe? Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est de la musique. Il va te dire, oui, mais c'est quoi comme musique? Ouais. C'est quoi comme style?
Tu fais quoi comme style?
C'est comme un besoin vital. Voilà.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère avec... Il y a tellement d'informations que les gens ont besoin de repères. Et dans un but de commercialisation, ça aide les gens à se placer. En fait, dans un, on va dire, contre-exemple, le fait de ne pas mettre de style sur un certain son, comment expliquer ça ? Il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts d'esprit, qui pourraient ne pas écouter ou écouter ta musique en fonction de comment tu la vends. C'est par rapport à ce point de vue-là que je dis ça. Par exemple, quelqu'un pourrait te dire moi, j'aime pas ce son, j'écoute pas de zouk. Tu dis moi, c'est du zouk que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire ? J'arrive pas à mettre les bons mots dessus, mais est-ce que t'as la vision de ce que je veux dire ? Et du coup, je pense que ça aide aux gens à. Ça aide les gens à pouvoir se fixer et, par exemple, dire si j'ai bien aimé par exemple un son qui ressemble à celui-ci, potentiellement j'aimerais bien celui-là.
Moi, c'est une référence en fait. T'as besoin de référencer ta musique. C'est vrai, tu fais de la musique, mais comme il l'a dit, si tu veux le commercialiser, je sais pas si moi demain je cherche une prod sur YouTube et je me dis j'ai écouté Tiakola par exemple, je sais que Tiakola lui il aime bien faire des drills. Bah, je vais me dire, vas-y, je vais chercher Tiakola type beat, drill type beat. Mais si toi tu mets ton titre sur YouTube, c'est de la musique, je peux pas, tu vois. Ça va être compliqué, surtout qu'en plus maintenant, comme avant, je pense qu'à l'époque de Timbaland et tout ça, comme ils composaient avec les MPC et tout ça, ils n'avaient pas forcément autant d'accessibilité. C'est pareil pour les artistes, maintenant il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de compos. Tu vas nager en fait dans un océan. Et si tu n'arrives pas à dire que tu fais ci ou tu fais ça, les gens vont pas écouter. Comme il l'a dit, en fait, on ne sait pas. Tu vois, il faut une référence. Ou comme pareil, quand tu mets une miniature, il faut qu'on sache, ça c'est ça. Un repère, quoi.
Voilà. Et du coup, est-ce que ça serait un avantage pour les artistes de définir leur son en mode moi c'est de la mapiano, drill, trap, quelque chose de très spécifique, tu vois.
Si on raisonne en termes de playlist et d'algorithme, en soi oui, parce que si, je sais pas, si on fait de la musique comme Aya par exemple, qui a défini sa musique d'une certaine manière, pour qu'on puisse proposer cette musique là à d'autres auditeurs, il faut qu'on sache déjà c'est quoi sa musique à elle. Si sa musique elle est comme ça, celui-là qui a aimé cette musique là, on va lui faire écouter la même musique. Du coup pour moi c'est un avantage. Après je comprends ce qu'il veut dire, c'est que dans le sens où il veut dire on est toujours obligé de créer quelque chose et de le caser dans une catégorie, ça je suis d'accord, mais s'il fait sa musique sans se dire qu'il va la mettre dans une catégorie, au final il est créatif, il est libre, c'est juste après une étiquette et au final voilà quoi.
Après quand on est super fort, on peut réussir au fur et à mesure du temps et des années, à construire son propre style. Exemple, Kaitranada.
Ouais.
Par exemple. Il a créé quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, on entend un type de son. On se dit, ça, c'est du Kaitranada.
Mais c'est comme Jules, ce que je disais, tu vois.
Complètement.
Les types de type Jules.
Ils ont une identité, quoi. Ils ont leur tellement forte identité, tu écoutes.
On est obligé de les assimiler à.
Exactement. Alors que, par exemple, Tiakola, lui, il n'a pas une identité. Tu vois. Parce qu'il ne l'utilise pas. Il n'est pas récurrent, je pense, dans le choix déjà de ses prods. Oui, il choisit des prods qui sont drill, mais ce n'est pas aussi marqué de Jules. On sent quand même. Il y a un univers derrière, on se dit, ça c'est du Jules type beat. On ne dit même pas, mais c'est de l'afro mélangé à. Non, on dit c'est du Jules type beat.
Complètement, parce que j'allais ajouter une nuance, s'il y en a qui n'ont pas forcément remarqué. Vous écoutez les prods de Jules, c'est presque du coupé décalé à une caisse claire près.
Mais je vous dis depuis longtemps comment de l'afro.
Vous ferez attention à ça. C'est presque du coupé décalé, vous ferez attention.
Quelque chose.
D'autres choses à ajouter?
Non, mais du coup, ça m'intrigue. Je vais essayer d'écouter pour voir si je capte le côté coupé décalé, en tout cas.
Mais juste pour revenir à la créativité, est-ce que si tu dépasses pas juste la catégorie que tu as besoin de mettre, est-ce que là, tu peux pas te dire, ok, vas-y, je dois mettre une catégorie, mais c'est pas grave. Je vais dans ma créativité parce que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui explosent dans ma tête, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. Ça, on peut pas le faire, ça?
On peut, mais après, on peut être cantonné au style. Ça dépend. Enfin, on va pas parler de type de musique parce que justement, on essaie d'en sortir, mais on peut être cantonné à la catégorie, ce qu'ils appellent les distributeurs alternatifs. Et dedans, il y a tout et rien. Ça peut être le bruit des PS2 quand ça charge, là. Ça peut être des trucs, ça peut être des choses comme ça. Et dedans, on peut mettre tout et n'importe quoi. Quelque chose qui n'a pas une rythmique classique, on va dire, qui se cale sur des. Sur des 8 ou sur des 16 temps, on pourrait la qualifier d'alternative.
Et après, pour rebondir sur ça, c'est que pendant longtemps, quand on parlait de la musique africaine, par exemple, pour les Sénégalais, Youssou N'Dour, c'était de la musique du monde. En gros, c'était bon. Et les Européens, on a des styles, et les gens là-bas, musique du monde. Et après, le problème, quand tu peux dépasser forcément, tu dis, moi, je fais ma musique, je vais mettre une étiquette, etc. Mais comme on est dans un... Moi, je suis plus consommateur que créateur. J'ai la chance d'être dans un panel de créateurs, donc ça me permet un peu de voir comment ils réfléchissent. Mais quand tu es consommateur, en fait, tu as tellement de sollicitations. Tu as Spotify, TikTok, tu as de la musique partout. Et que malheureusement, tu as besoin d'avoir des étiquettes. Parce que tu dis, voilà, en fait, là, j'ai écouté un son de TikTok de 50 secondes, là, je vais écouter un Spotify, je ne sais plus trop. Et par exemple, si tu me dis, par exemple, tu fais ta musique, tu dis, moi, je fais juste de la musique. Après, tu catégorises comme tu veux, tu vois. Mais sauf que moi, après, je dis, mais il a fait quoi? Et comme moi, je suis tellement matrixé par le fait que ouais, c'est la main piano, c'est du zouk. C'est de l'afro love. Non, je rigole, ça n'existe pas. Mais de musique. Et comme on a tellement conditionné le consommateur. En fait, on nous traite comme des consommateurs. En fait, la musique, c'est devenu comme
la musique aujourd'hui.
Voilà, c'est un Big Mac. Donc, en gros, comme tu as habitué le Big Mac musical à dire, en fait, il faut que je prends avec fromage ou sans fromage, avec frites ou sans frites.
Ouais.
Ce qui fait que derrière, quand on va te dire, mais après, c'est juste la musique pour ce que c'est, après, est-ce que tu as vraiment besoin de catégoriser ? Ça nous perd. Par exemple, nos parents, je suis pas sûr quand ils écoutaient, par exemple, mes parents sont, je répète, du Congo Brazza, quand ils écoutaient du Théo Blaise, du Franco, du Taboulaye, ils chantent pas pareil. Après, ils vont dire, nous, on dit maintenant rumba, ils disent, oui, j'écoute ma musique. Point barre. Ouais. Mm-hmm. Après, ils n'allaient pas dire, oui, mais non, avec, on va dire, c'est la rumba parce que t'as des codes, comme tous les styles, t'as des codes. Mais après, tu n'étais pas forcément étiqueté, je veux ça, ça, ça. Juste, tu reconnais, comme vous avez dit, maintenant, les artistes ont des signatures, en fait. Ils disent, lui, il fait comme ça. Lui, il fait comme ci, et l'autre, il fait comme ça. Donc, j'aime pour cette musique pour ce type de choses. Mais maintenant, comme on veut faire du fast-food musical, tu as l'impression que tu as de moins en moins d'artistes qui imposent un style, mais qui vont dire, c'est ça qui marche, et que peut-être après, quand j'aurai assis mon succès, là, je vais un peu tenter. Sortir des sentiers battus parce que je peux faire la musique que je veux. Mais après, c'est pour ça que je pense qu'on a encore besoin. Enfin, on a besoin. On nous a tellement habitués à avoir des tic-tacs, et parce qu'on aime trop nos menus Maxi Best of Music, en fait.
Pour compléter ce que tu dis, Youssou N'Dour, il est classé dans, si je dis pas de bêtises, musique du monde, ce qui veut absolument rien dire. Et il fait du Mbalax, je pense que personne ne sait le dire ou personne ne peut le définir, quoi. Et moi, ce qui me chagrine un peu, en étant sénégalais, c'est que c'est le seul artiste Mbalax qu'on connaît en France, en fait, alors qu'il y en a plein. Donc en fait, ouais, ils sont un peu noyés dans des catégories musique du monde, on met vraiment ce qu'on veut là-dedans. Donc,
comme si la variété française n'était pas la musique du monde. Comme si le rock'n'roll, c'est pas la musique du monde.
C'est ça.
En gros, c'est-à-dire, les Occidentaux, on a fait la musique, et vous, là-bas, on connaît pas ce que vous faites.
Le tiers-monde, musique du monde.
Et musique peut-être qu'on ne cherche pas à connaître davantage.
C'est ça.
Non. Pourquoi c'est important pour la génération d'aujourd'hui, les consommateurs d'aujourd'hui, de savoir, par exemple, que Tiakola, Damso, ils sont congolais, Aya, elle est malienne, pourquoi est-ce que ça, c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés ou qui ont grandi ici, en France?
Pour essayer de te répondre, ça peut être des liens qui feront plus facilement avec eux, en se disant, c'est de la musique de chez moi. Mais en soi, comme la musique, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir l'écouter, même si on ne devrait pas forcément en avoir, mais aujourd'hui, elle se vend comme ça. Je pense que ça va être un moyen de streamer plus facilement et de se dire, ok, ça c'est de la musique de chez Mongolais, c'est mon artiste préféré. Je le vois comme ça, personnellement.
Après, moi, c'est bizarre, parce que quand j'écoute Bolide allemand, je me dis pas genre, c'est de la musique de chez moi, tu vois.
Pourtant, peut-être que quand il était petit, sa mère faisait des chants traditionnels, il allait chez sa grand-mère qui écoutait un certain type de musique, qui auront plus tard influencé son phrasé et qui retranscrira dans cette musique-là. Mais ça, on ne le saura jamais, puisqu'il ne l'expliquera pas.
Oui, il ne l'expliquera pas, ouais.
Mais moi, je trouve que la drill, c'est de l'afro rapide. Au niveau des placements,
c'est ça.
Donc au final, ça reste quand même inspiré de l'afro. Et ouais, comme il a dit, en fait, ça crée un lien en fait avec la personne. Après, je pense pas que les Congolais sont nationalistes comme les Algériens. Les Algériens, dès qu'ils se voient entre eux, il y a une connexion.
C'est pas comme si ça fait une heure qu'il y a un clash entre deux Congos. Je dis ça, je dis rien.
Non, moi, j'ai pas de problème avec les Congolais. Ça, je suis pas dedans.
Ouais, mais après, je saurais pas expliquer pourquoi. Pourquoi ils ressentent cette proximité-là, mais je pense que c'est avec tout le monde, en vérité. Mmh. C'est comme si tu rencontres quelqu'un qui te ressemble, bah, tu vas te sentir plus proche de la personne. C'est, bah, c'est comme, je sais pas, si toi, t'es noir, tu te retrouves entouré que de blancs, ou si que toi, t'es noir et tu te retrouves qu'entouré de blancs, bah, peut-être que tu vas te dire qu'ils te ressemblent pas. Bon, après, ça n'empêche pas la vie commune, mais pour avoir une référence. Enfin, tu vois, par exemple, si... T'es que avec des blancs, par exemple, et que toi, tes cheveux sont afro. Ben, ouais. Vous n'allez pas vivre les mêmes galères, par exemple, des cheveux. Mmh. Vous n'allez pas avoir la même culture, vous n'allez pas manger la même chose. Toi, tu vas lui dire, ouais, j'ai mangé un tiep, il va dire, c'est quoi un tiep? Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est, du coup, on ne peut pas trop se parler. Lui, il me dit qu'il va le dimanche, je ne sais pas. Bon, bref.
Ça veut dire que fondamentalement, toi, même si ta musique, que ta musique soit influencée ou pas, et volontairement ou pas, par ta culture algérienne et tchadienne, est-ce que tu sais ou est-ce que tu as l'impression que tu représentes l'Algérie, que tu représentes le Tchad?
Bah, moi, je me représente moi.
C'est ça, déjà. Ce que je me dis.
Ouais. Je ne me dis pas que je représente l'Algérie ou le Tchad parce que c'est un grand mot.
Ouais.
Même si au Tchad, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes en vérité. Ce n'est pas comme le Congo. Le Congo, il y a beaucoup d'artistes. Vous êtes beaucoup représentés en France, là-bas au Congo aussi, là, avec Fally et tout ça là, qui tourne partout. Mais le Tchad. Ah, moi je reviens du Togo, j'ai fait quoi écouter Fally?
Est-ce que Fally représente la musique congolaise?
Heureusement qu'il a un site.
Ah non, moi j'ai fait que écouter Fally là pendant un mois, là, JPP là. Donc,
Comment ça, JPP? Après, pour répondre.
Ce sera le mot de la fin.
Après, pour répondre à ta question, pourquoi maintenant on fait appel à. On rappelle les origines? Parce que après. Quand j'étais petit, t'avais les Passy, tout ça, on savait qu'ils étaient congolais, mais on disait pas forcément l'artiste congolais Passy, tu vois. Mm. Mais je pense que aussi ça permet, encore une fois, dans une catégorisation, quand tu vas par exemple dans des pays, parfois Spotify, artiste d'origine congolaise. Tu vas voir Dadju, tu vas voir Niska, tu vas voir Gims. Même Gims, il le dit. Moi, avant qu'on lui refuse la nationalité, parce qu'il faut dire la vérité, avant qu'on lui refuse la nationalité, il dit non, moi je suis pas un artiste congolais, je fais de la musique. Française, je suis un rappeur et il a fait le vrai son qu'il a fait de son congolais, c'est ça paie comme jamais, c'est tout. C'est tout, c'est la vérité.
Quel
c'est,
ref.
Mais c'est la vérité. Et que après c'est vrai que c'est très récent que on voyait des gens d'origine africaine revendiquer leur héritage musical. Par exemple, moi je vous dis la vérité, la musique congolaise, Kofi, Estra Musica, tout ça, c'est à la maison. Moi, c'est après quand elle est dehors, tu parlais pas forcément de musique. J'avais pas d'argent pour avoir les Walkman, moi. Et après derrière, et quand tu voyais la musique, c'est la musique un peu de tout le monde, le rap, la variété française, etc. C'est quand on a vu, par exemple, dire les NASA, tout ça, qui vont mettre la musique. Dit, ah, c'est comme pour chez nous,
ouais,
mais c'est pas vraiment chez
la
nous.
La guitare, ouais.
C'est ça. Et dit bon, en fait, parce que c'est des Congolais. Après, c'est pas pour après déjà attirer une certaine clientèle, même si après. Faut pas que ça commence à invisibiliser les artistes congolais. Parce qu'on va dire, là, elle est d'origine congolaise, comme je suis d'origine congolaise, mais ça reste une musique issue du milieu urbain français. Je vais pas dire que c'est la pop urbaine parce qu'on a dit qu'on sortait des faux termes, on va pas en parler ici. Mais il a son héritage urbain d'ici, son héritage africain, ce qui fait un nouveau style de musique. Mais donc, qu'ici qu'on met dans pop urbaine parce que voilà, qu'on a pris la vraie catégorie musique de noir, mais, ça permettait de catégoriser les gens. Mais le problème de toujours rappeler les gens à leurs origines, déjà c'est bien. D'un côté c'est bien parce que ça met l'héritage culturel, mais il ne faudrait pas, à contrario, que par exemple Fally, Ferré, Roga Roga ou d'autres artistes, on les invisibilise parce qu'on dit bon, il y a des gens de franco-congolais, belgo-congolais qui sont là, qui vont prendre la place de ces gens-là.
Mais pour reprendre juste ce que tu dis, et puis pour conclure, parce qu'on va devoir conclure, en gros ça va quand même dans le bon sens parce qu'avant on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, maintenant, on commence à dire d'où est-ce que ça vient, quoi. Donc, il y a ces origines-là. Je suis désolé, on va devoir arrêter. On aurait voulu continuer, c'est vrai, mais on va devoir continuer l'émission parce que 5 heures. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. On va juste faire un tour rapide des actualités de chacun. Yoni, vu que tu avais le micro, tu peux le reprendre à nouveau. Ton actualité, c'est Wakongo.
Réseau actualité.
Alors, en 30 secondes.
Alors vite, Wakongo sur Instagram, donc c'est si vous voulez découvrir l'histoire et les cultures africaines et afrodescendantes, rendez-vous sur Instagram, TikTok, bientôt sur YouTube, on en a travaillé dessus. Yes. Et sinon, on est toujours pour échanger et mettre en avant la culture africaine et afrodescendante.
Ça marche, merci. Ça marche. DJ M. Canil.
Alors, j'organise une soirée qui s'appelle Chocolat Chaud. C'est un concept qu'on a lancé sur YouTube. C'est une chaîne. Et on va faire notre première soirée le vendredi 30 août à la Rotonde Stalingrad. Incroyable. Ça va être très sympa. Justement, c'est une soirée où on joue des sons qu'on n'entend pas en club et où on mélange les influences et les cultures. Justement, je pense qu'il y aura des sons de Randy dedans.
Ah ouais?
Parce que
ouais,
j'aime beaucoup ce qu'il propose.
Okay.
Je vous invite tous à venir, ça va être incroyable.
Donc, vendredi 30 août, Rotonde, métro Stalingrad.
C'est ça.
Randy Chick,
je dois dire quoi là?
Tes actus, tes réseaux, et ce que tu veux.
Réseau Randy Chick, actualité, j'ai récemment, comme j'ai dit, créé mon groupe de musique donc, qui s'appelle Ready. La fusion entre Rerzy et Randy, Ready. Donc voilà, il y a plein de musiques qui sortent, principalement sur SoundCloud, au nom de Ready, R-E-Y-D-Y. Voilà, sur les plateformes de musique, pareil, Spotify, etc. Randy Chick pour tout, la musique et tout. Et mon actualité académique, je prépare mon entrée en doctorat et yes. Je travaille sur l'entrepreneuriat alternatif et les politiques agricoles en Côte d'Ivoire.
Donc, on prolonge un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Moura, enfin, qu'on va retrouver dans pas longtemps pour le showcase.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, je vais chanter après pour vous. Donc, j'espère que vous allez être gentils déjà pour commencer. Et du coup, moi, je vais sortir du coup, le dernier morceau que je vais vous chanter ce soir. Je vais le sortir normalement fin juillet. Je vais sortir photo, début septembre. J'ai déjà sorti deux morceaux, si vous voulez les écouter. De toute façon, vous allez les écouter ce soir. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais vous parler après.
Yes.
Yes. Merci. Donc, tu nous prépares un show de qualité.
Merci à vous quatre.
Merci à vous quatre, en tout cas, pour cette partie de The Culture. Yes.